La musique. Caravane à la maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
Thank you.
Bonjour, vous écoutez les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. Alors, on vient d'écouter Poème barbare du peintre hollandais Karel Appel, qui faisait partie du mouvement Cobra. Et c'est un morceau précurseur de la musique industrielle, puisqu'il date de 1963. Il sera question de peinture dans cette émission, mais pas uniquement. Il sera plus précisément question de l'affiche politique, puisque nous avons rencontré Cécile Tardy, l'une des commissaires de l'exposition internationale graphique, pour une visite guidée autour des affiches politiques des années 1970 et 1980. C'est une exposition vraiment très bien, passionnante, qui a lieu à l'Hôtel National des Invalides. On parlera donc de l'engagement politique des artistes et on évoquera les grandes luttes qui ont suivi mai 68. On entendra aussi des extraits d'entretiens réalisés par Cécile Tardy pour la BDIC, avec les graphistes Alain Le Carnec et Claude Baillargeon, qui est décédé en mars dernier. On va débuter par un entretien de 1978 avec l'immense affichiste polonais et ami de Roland Topor, Roman Sislewicz, qui travaillait essentiellement sur la symétrie.
Mon outil de travail, c'est les ciseaux, colle, papier, enfin tout ça, qu'est-ce que vous imaginez plus simple, c'est utile de 16e siècle, pour éventuellement créer une image nouveau. Après l'année 30 en France, après le Cassandre, après Colin, après Savignac, après André François, il n'y avait pas grand-chose après la guerre. L'affiche polonaise est née de l'affiche française, ça c'est incontestable. Et cet groupe, c'est un phénomène qui est né sur la terre assez riche et qui était perturbé depuis les siècles et qui a donné tout un coup un enfant qui s'appelle l'affiche polonaise. Peut-être que j'ai participé aussi pendant certains moments à cette évolution. Si je ne deviendrai pas trop prétentieux avec ça, qu'est-ce que je dis en ce moment. C'est très difficile à dire quand on devient affichiste. Et j'ai fini mon école à 54, j'avais mon diplôme à Cracovie, en Pologne, et depuis je fais mon métier, mais affichiste, je fais beaucoup de choses, je fais la couverture, je le fais mise en page, affichiste, peut-être c'est problème de mon amour pour mon amour, oui, ça je répète, et pour un cadrage très fort et très serré, et c'est à cause de ça qu'on m'a dit que je suis peut-être valable pour quelqu'un qui peut transmettre un message comme affichiste. Mais je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui est-ce que je suis affichiste. Je fais les affiches, je les fais plus que 400 affiches de ma vie, dans ma vie. Mais je ne sais pas est-ce que affichiste c'est ça. Une affiche c'est une idée, c'est ça qui est principal, au fond. Parce qu'une idée peut exciter, elle peut faire une intrigue. C'est très important. Marcel Duchamp d'ailleurs a dit déjà, une image qui ne provoque pas, ça ne vaut pas la peine. Et il avait raison, parce qu'on est entouré des images, on est tapé par la publicité, par les dizaines de milliers par jour, on veut ou on ne veut pas. Mais ce n'est pas possible que cette image soit neutre, ce n'est pas possible. Il faut qu'il gueule, qu'il faut qu'il intrigue, qu'il faut qu'il fasse quelque chose qui nous permet de penser.
Alors bonjour Cécile Tardy.
Bonjour, je suis l'une des commissaires de l'exposition internationale graphique collection d'affiches politiques 1970-1990 qui est présentée par la BDIC à l'Hôtel National des Invalides et je suis commissaire de cette exposition parce que je suis conservateur à la BDIC. La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, c'est une bibliothèque qui existe depuis le début du XXe siècle, qui a été fondée en 1917, à la base par une collection privée de deux industriels qui, pendant la guerre, ont amassé tout type de documentation sur le conflit en cours. Donc, ils ont justement amassé des documents très de type varié. C'est ce qui fait qu'on a encore cette variété de sources aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement des imprimés, beaucoup de presse, par exemple, mais aussi des photos, des dessins de soldats, par exemple, des peintures, des objets. Voilà, donc on a conservé cette variété de collections et du fait que, au fil des aléas du XXe siècle, la collection donc, a été cédée à l'État et, en 1917, mais les aléas un petit peu dus à l'histoire, dus au problème aussi d'avoir un espace unique, ont fait que depuis à peu près le début des années 70, les collections sont scindées entre le siège de Nanterre, où il y a toutes les collections imprimées, audiovisuelles, archives, et puis cet espace aux Invalides où sont conservées toutes les collections d'images, et où il y a aussi l'espace d'exposition. En fait, donc, cette expo, elle a pour sujet un petit peu donc, les affiches culturelles, politiques, sociales des années 70-80, mais dans la première section du parcours, on s'est un peu attaché à voir comment tout ça circulait, et notamment quelles étaient aussi les influences communes qu'avaient subies ces graphistes. Donc on a commencé par retracer, poser quelques jalons plutôt, parce que c'est très rapide, sur l'affiche politique au début du XXe, et on s'est arrêté notamment par exemple sur le constructivisme russe de la Révolution, qui est important comme jalon parce que c'est aussi un moment où les graphistes, comme les architectes, comme les autres artistes, vont vouloir se mettre au service de la Révolution, donc d'un but politique et social, et donc vont faire des affiches qui doivent avoir une utilité sociale. Hein, on sort de l'art de l'ornementation, par exemple, et on n'est plus du tout dans l'art pour l'art, on est dans l'art qui doit avoir une utilité. Voilà, donc ça c'est un jalon important. Formellement c'est important aussi parce que le côté un peu abstrait, le côté géométrique en fait du constructivisme va avoir aussi des influences, par exemple beaucoup sur les Néerlandais. On a dans l'exposition, on a pas mal d'affiches d'un collectif qui s'appelle Vid Plaken, un collectif néerlandais actif entre 77 et 96 à peu près. Et donc voilà, là on retrouve une influence assez forte. Deuxième influence qu'on peut retracer, alors dont on n'a pas forcément de pièces très significatives dans ces premiers jalons qu'on a posés, c'est le Bauhaus, qui va avoir une influence sur notamment sur les Français. Alors ça va se manifester par exemple à travers la création entre 69 et 71 en France de l'Institut de l'Environnement, qui est une structure qui, par la suite, va être avalée par l'école des arts déco, mais qui, pendant 2 ans, va vouloir former des graphistes, certes, mais aussi beaucoup d'architectes, par exemple, et d'urbanistes, et va vouloir les former à ce que c'est que l'intervention dans l'espace public. Donc, elle va avoir cette ambition de ne pas former que des praticiens, mais d'en faire aussi des chercheurs, et en tout cas des gens ouverts aux disciplines des sciences sociales, ou d'une façon un peu large. Donc c'est la conception, et ça c'est vraiment un héritage du Bauhaus, de vouloir faire des gens qui soient qui aient cette ouverture intellectuelle et qui soient conscients aussi du rôle social qu'ils ont à jouer dans l'espace public, dans la cité. Voilà, donc ça c'est une influence qui est à la fois formelle et politique, si on veut, importante. Après, dans les autres grandes influences, il y a des gens comme John Hartfield, qui est un Allemand pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, puis un des opposants au nazisme dans les premières années, dans les années 20. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler le photomontage. C'est un des premiers à vraiment utiliser et développer cette technique-là. Donc là, John Hartfield, on en a exposé un extrait issu d'une revue illustrée allemande. Donc on voit sur ce photomontage, on voit Hitler avec des ailes d'ange, enfin, un peu à la manière d'un ange déchu, qui tient un sabre aussi à la main et qui surtout a en laisse à la fois un canon et une colombe muselée. Donc on a choisi ce photomontage-là parmi toutes ceux qu'on avait dans les collections de la BDIC parce que ça nous permet aussi d'introduire en fait un des motifs qu'on va retrouver dans l'exposition, qui est celui de la colombe. Et un des enjeux en fait de l'exposition, c'était de montrer aussi comment tout ça circule. Donc à la fois des influences formelles, le photomontage qui va être beaucoup utilisé dans les années 70-80, mais aussi par exemple la colombe, voilà, qui est ici muselée, qu'on va retrouver très épurée par exemple chez Tomaszewski juste en face. Donc une colombe, alors Tomaszewski, on est là dans la Pologne des années 60, donc on est plutôt dans la célébration de l'amitié entre les peuples dans le bloc soviétique. Et cette colombe est extrêmement stylisée, enfin très sobre, et pour le coup stylistiquement elle fait plus référence à la colombe de Picasso qui a été dessinée 4 ans plus tôt. Voilà, mais en tout cas cette récurrence en fait des motifs, c'était un des objectifs de l'expo. Un des troisièmes temps forts du début du XXe siècle qui va influencer aussi, c'est la guerre d'Espagne. parce que la guerre d'Espagne, c'est un moment à la fois politique très important pour l'histoire de l'Europe, mais aussi parce que c'est un moment où il y a justement une profusion d'affiches, où l'affiche va vraiment avoir un rôle très important dans la communication, dans la propagande des divers camps belligérants, à la fois en Espagne, mais aussi à l'étranger. Donc c'était aussi cette notion de circulation qui nous intéressait. Et puis, formellement, c'est un moment où on essaye beaucoup de choses. Donc il y a des affiches qui font référence au cubisme, enfin qui sont très plastiques. Et puis il y en a d'autres, comme celles qu'on a exposées, qui utilisent le photomontage et qui vont aussi poser un petit peu des figures qui vont devenir presque des clichés par la suite. Donc sur cette affiche-là, on a par exemple une femme et un enfant victimes des bombardements, et c'est la mère et l'enfant qu'on voit décliner parfois sous forme de Pietà. Enfin, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur un très grand nombre d'affiches par la suite de différents conflits du XXe siècle pour représenter les victimes par excellence civiles des bombardements. En fait, voilà.
Il n'y a pas d'autres choses marquantes en fait dans les motifs. On ne trouve pas souvent des personnages féminins emblématiques ou...
Si, on voit aussi des affiches qui posent la femme comme acteur politique, par exemple, parce que du côté des républicains, et notamment des anarchistes, on trouve justement cette volonté aussi pour les femmes d'assumer, de prendre une parole qui soit une parole d'acteur politique et pas seulement une parole de mère ou de rôle social, comme on a souvent... réduit les femmes. Et donc on a effectivement des affiches avec des femmes qui, un peu dans le style de la passionnariat, si vous voulez, de cette figure-là. Voilà, on en trouve aussi, effectivement. Ouais. C'est pas toujours les femmes victimes. Dans les influences communes, ce qu'on regarde dans cette première section, on s'arrête aussi sur deux grands moments, en fait, mais qui sont plus donc de la deuxième moitié du XXe siècle, qui précèdent donc d'un peu plus près les années 70, et qui ont une influence à la fois sur le rôle de l'affiche et des influences formelles. Alors, c'est l'école polonaise de l'affiche, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est pas vraiment une école stylistique, en fait, et puis l'école cubaine, pareil, avec beaucoup de guillemets aussi. Alors, pourquoi ces deux moments ? Parce que, en fait, ce sont deux pays qui, à la fois, bénéficient d'une tradition graphique qui est née au début du XXe, donc il y a un savoir-faire qui est présent. Et en même temps, ce sont deux pays où le régime qui se met en place, donc dans les années 50 en Pologne, à partir de 59 à Cuba, ces régimes-là vont utiliser l'affiche aussi, enfin la promouvoir, l'utiliser à la fois à des fins de propagande, mais aussi à des fins de diffusion internationale. Donc on va avoir une profusion d'affiches sur les murs. Alors par exemple en Pologne, c'est très clair que les jeunes graphistes européens, par exemple, qui vont aller en Pologne dans ces années-là, comme Gérard Paris-Clavel, Pierre Bernard, donc les membres de Grapus, ou Alain Le Kernec, Thierry Sarfis, pour citer d'autres graphistes qu'on expose aussi ici, ces jeunes gens-là, à ce moment-là, dans les années 60, vont être assez frappés par le nombre d'affiches qu'il y a sur les murs en Pologne. Et ce sont des affiches à la fois qui ont un sens politique affirmé. Par exemple, on a mis trois affiches du 1er mai, le 1er mai étant un rendez-vous politique et social très fort en Pologne à ce moment-là. Mais ça peut être aussi des affiches culturelles, tout simplement, donc pour des pièces de théâtre, pour des expositions, pour des films. Et donc toutes ces affiches sont signées de grands graphistes, de gens qui ont une réputation à l'international, une renommée. Donc c'est Sislevich, Tomaszewski, Palka, Lenika, tous ces grands noms-là. Donc ça, cette importance de l'affiche polonaise va les marquer à la fois parce qu'elle est assez libre formellement,
Et puis à la fois parce qu'on retrouve aussi donc ce rôle social, en fait cette place dans l'espace public qui va marquer aussi. Et puis troisième élément, c'est parce qu'ils vont aussi se former à Varsovie, auprès de quelqu'un comme Henryk Tomaszewski. Donc ils sont très nombreux, les jeunes graphistes des années 60-70, à faire le voyage en Pologne, si on peut dire, et à passer quelques mois ou un an à l'école des Beaux-Arts auprès de Tomaszewski, dont tous disent que c'est un pédagogue hors pair, enfin, qui ne cherche pas à les former formellement, enfin, forcément à ce que lui fait, enfin, des choses comme ça, mais plutôt à leur faire découvrir, en gros, leur propre talent, leur propre personnalité graphique. Et puis, donc, ce qui est important aussi sur la Pologne, c'est que cette circulation, en fait, c'est la façon aussi dont circulent les images, c'est qu'on voit apparaître aussi le rôle de revue très importante, comme donc c'est un titre qui s'appelle La Pologne, qui va s'appeler Polonia en espagnol, parce que c'est un titre multilingue, et donc qui montre aussi l'importance que le régime accorde au graphisme, puisque c'est une revue de propagande culturelle, donc qui va chaque mois proposer des articles sur ce qui se produit en Pologne en termes de science et de culture, donc sur la philologie, sur la philosophie, enfin sur des choses extrêmement variées. Mais à chaque fois, la couverture est assurée par et signée d'un grand graphiste de l'époque. Donc au-delà du contenu de cette revue, la vitrine, elle se fait aussi vitrine en fait du graphisme. Et c'est par ce biais, avant que ce soit par les affiches elles-mêmes, que le graphisme polonais va être connu au-delà du rideau de fer en fait.
Alors, la Pologne, il faut vous dire une chose, c'est il y a des écoles, je vous parlais du graphisme iranien, il y a des endroits où le graphisme, l'école suisse...
Alain Le Kernec.
En Pologne, les affiches, elles étaient partout dans la rue. Et c'était, il n'y a qu'à voir les photos, les murs chantaient, il y avait plein d'affiches. Par exemple, ils sortaient... À Varsovie, tous les mois, ils sortaient, mettons, une vingtaine de nouveaux films. Donc, ça faisait 20 affiches différentes. Comme ça, ils collaient sur les murs les unes à côté des autres. Il y avait des pièces de théâtre, plaf. Les murs étaient couverts de ces affiches. Hein, de même qu'on parlait du phénomène de l'affiche de 68, il y avait le phénomène de l'affiche polonaise. Qui était un phénomène dans son sens, mais qui avait cette particularité qu'on ne voyait nulle part ailleurs, qu'elle était dans la rue. Et qui était, était protégée. Donc, ces ozos-là prennent le pouvoir à l'intérieur des structures du Parti communiste. Ils savent donc, comme ce sont des gens très forts, et en particulier Tomaszewski, ces travaux sont attribués à ceux qui sont... à leurs yeux les plus intéressants, c'est cette production et recueille les échos à l'ouest, et donc l'État, c'est une bonne chose pour le pays, paf, l'État communiste soutient à fond ces... Alors déjà, il y avait des structures, chaque mois il y avait l'élection de la meilleure affiche du mois, il y avait des tas d'expositions, et donc il crée, fort de cela, il crée la première biennale internationale de l'affiche, contemporaine, en 66. Et peu de temps après, il crée le premier musée de l'affiche contemporaine.
Et en quoi c'était un pédagogue extraordinaire, Tomaszewski ?
Alors, donc, je peux déjà vous donner mon expérience personnelle. Moi, j'étais arrivé en septembre, ma bourse commençait en septembre, je suis arrivé en septembre, et on m'apprend que la fac, les Beaux-Arts, ouvre le 1er octobre. Je ne suis pas m'emmerder un mois sans rien faire, je vous ai dit, c'était un investissement pour moi. Donc, je contacte Tomaszewski. Il m'a dit, donc il y a un jour qu'il me passait à la fac, ou à l'école des Beaux-Arts, je le rencontre, et avec un traducteur, il dit, oui, très bien, je veux bien vous prendre. Et je lui dis, ouais, mais moi, je veux bosser, donnez-moi un sujet, donnez-moi un travail. Et donc il me donne un travail, un truc très classique, basique. Vous prenez une grande feuille de papier horizontale, vous la divisez en deux. D'un côté, vous allez écrire, rien qu'avec des lettres déjà, hein. Vous allez écrire Matisse, et puis de l'autre côté, vous allez écrire Mondrian, puis c'est tout. Mais à la manière dont vous allez écrire Matisse et Mondrian, vous allez essayer de me dire le maximum de choses sur ces deux peintres. Je vous parlais de la contradiction qu'il y avait chez moi. C'est-à-dire que d'un côté, une attirance qui était née peut-être de ce style Savignac, une attirance pour cette image de la rue, et d'un autre côté, cette répulsion pour la publicité. Donc, qu'est-ce qui restait comme domaine ? C'était les domaines culturels, délaissés parce que ne rapportant pas d'argent, et le domaine politique, parce que délaissé parce qu'en rapportant encore moins. Avec cette mode post-68 armes, il y a cette demande et ça concilie le tout. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de s'exprimer, de suivre un mouvement, de participer d'une certaine manière à un mouvement, à l'expression d'un souhait, d'un désir, soutenir une action et en même temps se réaliser, c'est-à-dire que les deux choses vont tantôt l'un prendre le pas sur l'autre, mais de se réaliser, à savoir que je mets toute mon énergie à trouver le meilleur langage graphique, artistique. Ce qui était alors ça se retrouve chez Grapus. À l'époque, au début, on se connaissait pas, mais on était animé par cette même. Alors eux, ils travaillaient à une autre échelle que moi, mais on était animé par ce même désir. Mais on était des exceptions parce que donc les gens qui ont du talent et du désir de créer un langage, de dire des choses, ils vont ailleurs, ils vont faire de la peinture, ils vont dans des domaines qui seront considérés, qui seront en lumière. C'est normal, ça, cette attirance. Mais les Grapus comme moi, d'une manière totalement individuelle, on considère que c'est la plus belle chose du monde de donner toute son énergie là-dedans, de se faire. Donc on se retrouve, on n'explique pas ça. On se lance à fond dans le. Dans cette expérience. Donc d'une manière, je crois, désintéressée.
Et puis donc, le deuxième temps fort, c'est Cuba. Alors Cuba parce que là aussi on est sur, après la révolution castriste, sur un régime qui va utiliser un savoir-faire existant, puisque Cuba, dès le début du XXe siècle, se dote d'agences de publicité, notamment beaucoup d'agences de publicité nord-américaines ou latino-américaines ont leur siège à Cuba et les Cubains travaillent pour le continent. Donc en fait, au moment de la révolution, certains fuient le pays, mais pas tous, et donc le nouveau régime va utiliser ce savoir-faire pour produire maintenant des affiches politiques au service de la révolution, donc sur les grandes réformes, la réforme agraire, l'alphabétisation, etc., mais aussi pour diffuser la révolution à l'international. Donc on voit apparaître aussi des structures comme l'OSPAL, qui est l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, qui va se créer en 1966 à La Havane, et qui veut, en fait, qui est une initiative, à l'origine, c'est pas une initiative cubaine, c'est beaucoup porté par quelqu'un comme Ben Barka, hein, juste avant sa disparition, mais c'est un organisme qui veut fédérer, en quelque sorte, la voix des pays nouvellement indépendants, enfin, issus de la décolonisation. Donc faire entendre une troisième voix entre les voix des deux grands blocs. Et donc cette volonté un petit peu de se coordonner, de discuter ensemble, va trouver à Cuba une oreille extrêmement attentive. Et donc Cuba va se faire un peu le leader de ce mouvement-là. Et donc du coup, l'OSPAL se dote par exemple d'une revue. C'est les mêmes façons de procéder. C'est-à-dire qu'on commence par créer une revue. Donc là, c'est tricontinental, qui va permettre de diffuser à l'extérieur, la voix des non-alignés, mais aussi, de plus en plus, hein, au fil du temps, la voix de la politique internationale de Cuba. Donc, voilà, ce sont là aussi des revues qui sont illustrées, enfin, qui ont leur couverture signée par des graphistes. Et puis, à l'intérieur de ces revues, on a une petite affiche qui est aussi insérée. Et ces affiches vont permettre de diffuser aussi ce que c'est stylistiquement que le graphisme cubain, de le diffuser à l'international, donc à la fois dans ces pays nouvellement indépendants, mais aussi en Europe, dans des cercles un peu militants ou associatifs, ou dans les auberges de jeunesse, ou dans ce genre de réseau. Et donc, en fait, ce sont des affiches où il faut que tout de suite on comprenne de quoi il s'agit en les voyant. Donc, voilà, c'est très visuel. Souvent, ça utilise, même tout le temps, ça utilise le procédé de la sérigraphie, qui est très, très significatif, hein, qui représente ce que les affiches cubaines, enfin, toutes pratiquement sont faites en sérigraphie. Et voilà, donc on a des grands aplats de couleurs, des couleurs souvent très tranchées. Voilà, donc sur les exemples qu'on a, on a plutôt mis des affiches cubaines qui sont justement destinées à diffuser soit la politique des pays non alignés, soit la politique cubaine à l'étranger, plus que des affiches cubano-cubaines, si on veut.
Oui, il y en a deux où on voit des fusils mitrailleurs, en fait.
Oui.
Il y en a une où ils forment un mot, j'arrive pas à lire.
Guinéa. Ah, oui. Oui, ça c'est la journée de solidarité avec la lutte du peuple de Guinée, dite portugaise, et du Cap-Vert. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est des affiches qui reflètent ces préoccupations pour les pays, soit qui sont en voie de décolonisation, soit nouvellement indépendants.
Ce qu'on voit dans la première salle, en fait, souvent, c'est les causes politiques des années 60, enfin des conflits qu'on va retrouver dans les années 70 et 80.
Oui, alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les préoccupations, il y en a beaucoup qui existent déjà et qu'on va retrouver par la suite. Par exemple, on a fait une vitrine aussi un peu sur 68, parce que c'est quand même un moment fondateur. Enfin, l'affiche, en fait, explose en 68, mais ça, c'est connu. Ce qui nous intéressait, c'était justement de voir ce que ça devenait après. Mais en 68, comme à tous les moments de crise, on a à la fois une profusion d'affiches, mais aussi une profusion de tous les autres types d'imprimés qui servent pour les luttes, en fait. Donc c'est beaucoup de presse, de titres de presse, et puis beaucoup de tracts et de brochures, hein, aussi. Mais ce qu'on voit sur tous ces supports qui apparaissent, c'est que, on voit apparaître la dénonciation de la guerre du Vietnam, les JO de Mexico, et puis des luttes plus sociales comme le droit au logement, par exemple. Donc ça, ce sont des problématiques des années 60 qu'on va retrouver dans les années 70 et souvent aussi dans les années 80 pour les problématiques sociales.
Band, extrait de Saigon Rock and Soul 1968-1974.
Alors là, on est dans les années 70 et les années 80. Et ce qu'on voit dans cette salle, ce sont les grandes mobilisations internationales qui vont donner lieu à des affiches de la part de graphistes professionnels à l'international, là aussi. Hein, c'est-à-dire que ces graphistes qu'on expose ici ont comme particularité tous de choisir en fait de travailler en indépendant, de ne pas travailler pour les grandes agences de pub ou les agences de communication qui commencent à prendre un petit peu toute la place petit à petit, donc de rester indépendant et du coup de choisir aussi les commandes qu'ils honorent. Donc ils vont travailler pour des partis, pour des syndicats, pour des associations, pour des institutions culturelles avec lesquelles ils se sentent en accord. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, eh bien, ils vont beaucoup se faire les vecteurs et l'écho, à la fois, des grandes mobilisations internationales de l'époque, au premier rang desquelles la guerre du Vietnam, au tout début des années 70, qui est vraiment la première grande cause à mobiliser l'opinion publique internationale. Eh ben, on a des affiches cubaines, par exemple, puisque ça fait le lien un peu avec la première section, puisque pour Cuba, la dénonciation de la guerre du Vietnam a été une espèce de tribune aussi pour asseoir sa voix et puis sa dénonciation de l'impérialisme américain. Donc il y a une grande profusion d'affiches, par exemple celle de René Medeiros Passos qu'on a là, donc qui est quelqu'un, lui, qui a fait un voyage au Vietnam, qui en a rapporté beaucoup de dessins et qui après a mis ses dessins comme une sorte de reportage en fait, qui a mis ses dessins en affiche hein, grâce à la sérigraphie. Donc celle-là montre un combattant vietnamien mitraillette à la main, mais il y en a d'autres qui sont plus sur la vie quotidienne en temps de guerre en fait hein, dans ces séries d'affiches.
Alors, on voit une affiche qui ressemble à du détournement de bande dessinée.
Vraiment. Oui, donc ça aussi c'est intéressant parce qu'au point de vue formel, ces graphistes-là, dans la lignée par exemple aussi du Pushpin Studio, qui est une autre influence majeure que je n'ai pas signalé tout à l'heure, mais c'est un studio américain avec des gens comme Milton Glaser et Seymour Quast, et ces gens-là, en fait, ce qui va marquer leurs successeurs, enfin les gens qui sont un petit peu plus jeunes qu'eux, c'est qu'ils ont une volonté d'anticonformisme formel, donc de ne pas se contenter des formes un peu élitistes de l'art, mais de puiser partout. Et justement d'aller puiser aussi dans la bande dessinée, dans la pop culture, dans le psychédélisme, enfin, dans toutes ces formes aussi de culture plus populaire. Donc là, oui, sur cette affiche néerlandaise d'Anton Beck, on a oui, une réutilisation de la bande dessinée, tout à fait. Alors après, ce qui est intéressant aussi sur la guerre du Vietnam, c'est qu'on voit apparaître des motifs formels qui vont avoir une vie propre en quelque sorte. Alors c'est le cas du chapeau conique, du chapeau traditionnel des paysans vietnamiens, qui devient le symbole un peu du combattant hein, vietnamien, et puis qui va du coup prendre une vie propre, puisqu'on le revoit par exemple sur la première série d'affiches de Grapus, le collectif français qui se fonde en 1970. Ils se sont rencontrés à l'Institut de l'Environnement, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc de cette structure qui a duré 2 ans et qui visait à former des gens à la fois, enfin, à toutes les sciences sociales, enfin, de leur donner cette ouverture un peu sur les sciences sociales. Donc François Mie, Gérard Paré-Clavel et Pierre Bernard se sont connus là, ont fondé Grapus, et donc leur première œuvre collective, c'est donc une série de 9 affiches contre la guerre du Vietnam, qui va être présenté à la Biennale de Varsovie en 70. Et donc sur cette série d'affiches, on voit le chapeau vietnamien tout seul, c'est-à-dire sans, il n'y a pas besoin de le mettre sur la tête d'un soldat pour qu'on comprenne que ça concerne la guerre du Vietnam. Et donc ce chapeau subit une pluie de bombes. Et donc sur les 8 premières affiches, il n'y a que le fond, la couleur du fond qui change pour bien montrer que c'est le caractère très très interminable de cette guerre et très dure. Et puis il n'y a que la 9e affiche qui donne l'espoir d'un ciel plus apaisé.
Voilà. Dégagé de toute bombe,
ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Et donc voilà, ce chapeau conique donc, qui à lui seul signifie la guerre du Vietnam, en fait on a trouvé une affiche de Wildplakken qu'on a mise en face, montre que ce motif survit à la guerre du Vietnam, puisqu'on le revoit sur une affiche de 82 sur la tête de Reagan pour dénoncer l'intervention des États-Unis au Salvador en 82. Donc là on n'est plus du tout dans le contexte de la guerre du Vietnam, et pourtant le chapeau vietnamien reste le symbole graphique de la dénonciation de l'intervention des États-Unis à l'étranger, en fait. Donc c'est
voilà. Oui, vraiment une circulation internationale, en fait.
Ouais, tout à fait, ouais. Dans le temps et dans les luttes, en fait. La dénonciation du racisme et de l'apartheid va beaucoup mobiliser les graphistes, avec des affiches françaises, cubaines, néerlandaises. Et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est des, sur le plan graphique, ce sont aussi des symboles qui évoluent, et notamment un rapport au corps humain, finalement, qui évolue. On connaît, par exemple, dans les affiches politiques, les affiches engagées, l'importance du poing serré, du poing levé, qui est très caractéristique des affiches de la Révolution russe, des affiches de la guerre d'Espagne, notamment. Et ce qu'on voit, c'est que petit à petit, enfin, en tout cas sur cette période, on voit apparaître des bras, des mains, des pieds. Donc voilà, une autre façon finalement pour l'affiche politique, un autre rapport au corps, et on met en avant d'autres choses. Alors on met en avant notamment, à travers les bras de couleurs différentes, la solidarité entre les peuples et la dénonciation du racisme. Donc on a ça sur deux affiches de l'OSPAL, dont un dessin signé Ciné. On voit qu'on a des bras de couleurs différentes qui... Soit tiennent un fusil ensemble, soit tiennent un couteau, et en tout cas montrent que on est plus fort à plusieurs que seul. On voit apparaître aussi des symétries. Donc là, on a la symétrie entre les bras de couleurs différentes. Sur l'affiche de Wildplakken qui dénonce l'apartheid en 88, on a la symétrie entre deux moitiés de visage, un moitié de visage de femme blanche, un moitié de visage de femme noire, qui, à coller, forment un seul visage, pour montrer aussi la fraternité et la complémentarité entre les peuples. Après, on voit apparaître des mains ouvertes, comme sur une affiche de Grapus qui dénonce l'apartheid, là aussi, pour le Parti communiste français. Donc cette main qui rappelle aussi la main « Ne touche pas à mon pote », qui est complètement des mêmes années. Enfin, et puis on voit apparaître aussi d'autres choses. Alors par exemple, la forme du continent. Il y a une grande affiche de Grapus qui dit « Apartheid, racisme, le cancer du monde », et qui montre l'Afrique qui ressemble à un crâne. En fait, et un crâne gangréné par le racisme qui vient du sud, de l'Afrique du Sud, en fait. Donc on voit qu'on a le sort d'un continent qui est signifié à partir de la forme même du continent. Et ça, on le retrouve aussi sur l'Amérique du Sud, sur des affiches qui dénoncent les dictatures latino-américaines ou les conflits sans fin qui ont lieu sur ce continent-là dans les années 70 et 80. Et donc on voit que un graphiste comme Klaus Steck et des graphistes cubains vont tous deux utiliser la forme du continent pour en faire une poche revolver ou pour en faire une main qui tient un fusil. Donc là aussi, on a le sort du continent signifié dans la figure même du continent. Après, les grandes mobilisations ne manquent pas sur ces 20 années. Donc on a essayé de faire un petit panorama rapide, d'évoquer justement les dictatures latino-américaines, à travers notamment une affiche qui présente la figure de Pinochet. Donc c'est ce qui reprend une photo très connue, qui est une des premières photos de Pinochet vu à l'international.
On voit avec des lunettes noires.
Ouais, ouais. Ouais, après le coup d'État du 11 septembre 1973, donc c'est le Pinochet avec ses fameuses lunettes noires et un air extrêmement opaque et patibulaire. Et donc cette image-là va circuler beaucoup et être réutilisée sur des affiches, y compris sur des affiches culturelles, comme on en a un exemple plus loin dans l'exposition. Donc ça devient vraiment la figure du dictateur, en fait.
Il y a certaines des affiches qui ont besoin juste du dessin ou de l'image pour s'exprimer. Il y en a d'autres où des fois le titre ou ce qui peut être inscrit a une importance. En fait. Par exemple, je pense à celle de Pinochet qui s'appelle « Il faut que la démocratie prenne un bain de sang de temps en temps ». Donc, avec une citation.
Oui.
Et c'est vrai que si on n'est pas la citation, du coup, ça a beaucoup moins de...
Oui, c'est peut-être moins parlant, oui. Oui, oui. Parfois, l'image se suffit elle-même. Parfois, c'est le photomontage, en fait, lui-même qui crée un espèce de décalage. Enfin, et puis, parfois, le texte a de l'importance. Il y a d'ailleurs des affiches qui sont purement des affiches texte. Sur la dénonciation de l'apartheid, on a mis deux exemples. Une affiche française d'Alain Le Carnec qui dit « La liberté de Mandela ». La liberté demande là, hein, qui joue sur graphiquement en fait sur le mot Mandela. Et puis une affiche de Villeplaquen qui s'intitule Blanc et qui en fait typographiquement joue en fait sur l'enchâssement. On voit bien qu'il y a trois mots enchâssés: Black, Blanc qui veut dire blanc en néerlandais, et puis l'ANC au milieu en fait qui forme le corps du mot. Donc là, on est par contre sur une affiche qui est postérieure à la fin de l'apartheid et qui est au moment où, juste avant l'élection de Mandela comme président.
C'est quoi l'ANC ?
L'African National Congress.
Ah d'accord.
Parti de Mandela.
Il y a une chose qui me frappe aussi, c'est que des fois, parfois les photomontages se veulent un peu grossiers. En fait, il faut qu'on voit quand même qu'il y a effectivement eu un trucage en fait.
Oui, alors ça c'est parfois très voulu. Hein. Villeplaquen, par exemple, le collectif néerlandais, fait des photomontages mais refuse de les masquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit que c'est factice. Il ne s'agit pas de tromper finalement la personne qui voit, hein, mais vraiment d'assumer ça. Donc il y a un côté artisanal qui est voulu. Et puis donc après on voit apparaître aussi des mobilisations comme les droits de l'homme, hein, donc avec l'importance d'Amnesty International, qui est une association extrêmement qui gagne beaucoup d'influence dans ces années-là, qui aura le prix Nobel au début des années 80. Et donc Amnesty International est un grand commanditaire d'affiches pour ces graphistes-là. Et on a choisi d'en afficher une d'Alain Le Carnec, qui est une affiche de soutien, de dénonciation de la condition des prisonniers politiques, qui date de 77. Et cette affiche, donc, qui montre des prisonniers en fait, dans un casque en barbelé, cette affiche est intéressante aussi en termes de circulation, parce que le graphiste lui-même a trouvé par hasard, au début des années 2000, l'existence d'un livre iranien qui reprend exactement le même dessin, son dessin à lui, mais dont il ignorait complètement l'existence. Et ce livre-là, c'est un livre qui est la réédition du témoignage d'un prisonnier politique des années 30, un prisonnier politique communiste en Iran, ouais. Et qui a donc la réédition de ce témoignage-là en 78 à Téhéran, de façon totalement clandestine en fait. Donc c'est intéressant de voir que l'image, le côté prisonnier politique en fait a perduré, mais qu'il n'a absolument aucune idée de la façon dont cette image exposée sur les murs de Bretagne a pu à un moment donné arriver jusqu'à Téhéran et être éditée. C'est aussi le moment, ces années-là, où on voit beaucoup apparaître la crainte du risque nucléaire, en fait, hein, de guerre entre l'URSS et les États-Unis. Donc on a énormément de marches de mobilisation pour le désarmement. Et ça se manifeste par des affiches pacifistes qui relisent le symbole de la colombe en le dotant de pieds ou de jambes. Donc on a mis en parallèle une affiche de Grapus qui date de 81, qui reprend la colombe de Picasso en la dotant de grands pieds, faits à la main. Et puis une affiche de Seymour Quast, donc le graphiste américain, qui est de 82 et qui là aussi dote la colombe de jambes, comme pour mieux marcher et manifester contre le risque de guerre nucléaire.
Après, ce sera symbolisé quand même la lutte contre le nucléaire de manière plus agressive, avec la planète qui...
Tout à fait, ouais, c'est ce qu'on voit avec les affiches de Günther Rambo, qui correspondent à une commande politique, là. C'est la commande du parti Die Grünen, pour le Land de Hesse en 83. Et donc, en fait, Rambo fait une série de 6 affiches pour le Parti Vert. Donc sur cette affiche, on voit une sphère hérissée, en métal, hein, très hérissée, très, très dangereuse, et sur fond de centrale nucléaire. là, on a vraiment une affiche qui montre que la préoccupation des risques du nucléaire civil, c'est quelque chose qui va beaucoup se développer aussi à partir de la fin des années 70.
Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les Ibakusha, rescapés du picado. Le picado éclaire, boum! Pura, 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 pura. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite. Nausée, vertige, pura, 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 pura. Les Ibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé Bura Bura, la maladie du rien faire. Le ministère de la Santé japonais a été obligé de classer les Ibakusha comme invalides, au même titre que les leucémiques. Palpitations, trouble de la mémoire. Bura, 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 bura. Dans la ville nouvelle, trop malade pour travailler, pas assez pour mourir. Les nouveaux venus croient le mal atomique contagieux. Nous ont privés de bains chauds. Bura, 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 bura. Selon une croyance japonaise, les guirlandes de papier suspendues au plafond peuvent favoriser la guérison des malades. Pura, 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 pura. On vient d'entendre Bura Bura, qui est extrait de l'album de Khaled Mani et André Almuro, Vietnam 1967. Et on va reprendre la visite de l'exposition internationale graphique autour des affiches politiques des années 70 et 80 avec Cécile Tardy.
Nous sommes là dans la troisième section de l'exposition qui s'intéresse plus aux relations des graphistes avec leurs commanditaires. Parce qu'effectivement, une affiche, c'est pas, enfin, contrairement à un tableau par exemple, c'est pas un geste artistique pur, spontané, ça répond à une commande. Donc c'est souvent le résultat d'un dialogue. Et donc ce qu'on a vu un peu au fil de cette période, c'est que la commande politique, elle va petit à petit aller en se réduisant. Quand la commande sociale et la commande culturelle vont durer un peu plus longtemps. Donc oui, les partis politiques, dans les années 70, font appel à ces graphistes indépendants pour des campagnes électorales. Et puis, de moins en moins, enfin, ça va se terminer à peu près avec 81, Séguéla et Mitterrand. Enfin, c'est un peu une date symbolique à ce niveau-là, où ce sont les grandes agences de com', en fait, qui vont prendre en charge la communication électorale des partis politiques. Mais donc, avant, on a, oui, le Parti communiste travaille pas mal avec Grapus, le Parti communiste néerlandais avec Yves Plaquen, le Parti socialiste avec Claude Baillargeon, voilà. Donc on a des exemples de ces affiches réalisées pour des partis politiques ou pour des syndicats, puisque Grapus a beaucoup travaillé pour la CGT aussi.
Mais du coup, c'est vrai que c'est très expressif en fait que la qu'une avant-garde politique soit proche d'une avant-garde.
Oui.
À partir du moment où les socialistes font leurs affiches par Séguéla, c'est vrai que ça veut dire que
mais
ça
ouais,
perd
c'est
toute crédibilité.
Ça veut dire en tout cas que enfin, les années 70, c'est l'union de la gauche et les partis de gauche sont dans une dynamique d'accès au pouvoir. Et du coup, oui, il y a plus d'innovation, il y a plus de liberté, il y a plus d'audace. Hein, et donc, du coup, qu'on fasse appel à des graphistes indépendants, ça va de pair, tout à fait, hein, la question. Et les questions sont liées. Et du coup, les années 80, bah oui, la donne est un peu différente.
Alors, au départ, moi, je voulais être peintre. Hein. Et du reste.
Claude Baillargeon.
Il y a quelque chose enfin, que je me disais, c'est-à-dire que moi je crois que je fais partie d'une espèce de graphiste qui est à mi-chemin justement entre la peinture, la photographie, on est à la croisée des chemins. Hein. Probablement parce que l'intention première était une intention artistique. Et qui continue de fonctionner, qui ne m'a jamais quitté. Alors que j'ai fait du graphisme, ou de la peinture, ou de la sculpture, ou de photographie, c'est fait avec le même état d'esprit de recherche, de remise en cause, d'expression personnelle, d'invention. Ouais, c'est comme ça que je vois la chose. C'est ça qui nous différencie, au fond, nous les graphistes, peut-être... un peu plus culturel de ceux qui travaillent dans la publicité, je sais pas. C'est-à-dire que Sistevich, par exemple, il était graphiste, mais il avait un côté beaux-arts. Hein? Et c'est vrai que c'est quand une image comme ça de graphiste a un côté beaux-arts qu'elle est la meilleure, je pense. Sinon, c'est moins intéressant, c'est plus sec. Une espèce d'ouverture comme ça dans le fait de pouvoir la sensibilité, une sensibilité qui est quand même très importante pour une image. Toutes mes images, c'est ça qui étonnait Sistevich, sont faites à partir de mes propres photos, alors que lui c'est généralement des photos qu'il a empruntées dans des magazines ou dans des... il faisait même jamais je pense de photographie pour faire ses... Moi ça commence toujours par un croquis. Voilà. Ensuite, je fais les photos nécessaires pour réaliser ce croquis en photomontage. Et ensuite, c'est le photomontage. Voilà. D'accord. Et parfois, je suis obligé de faire des objets, fabriquer des décors. Quelquefois, ça peut aller assez loin. Alors, justement, pour revenir à Sistevich, il me disait toujours, quand il venait me voir dans mon atelier, que je me mettais tout le temps en difficulté. Il me disait, moi, à l'intérieur d'une commande, j'éviterai de faire ça parce que c'est me mettre en difficulté vis-à-vis du commanditaire, parce que ça veut dire qu'on va probablement déborder les délais, que, etc., etc. Bon. Des fois, j'ai du plaisir à faire des affiches, mais c'est quand même un travail qui est quand même assez... contraignant. Pour ne pas s'écarter du sens. Quoi.
C'est-à-dire le sens que vous... demande le commanditaire, c'est
ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et le faire le plus clairement possible, en éliminant tout ce qui est inutile. Et ce qui rejoint finalement aussi une démarche esthétique, parce que on élimine aussi ce qui n'est pas utile, dans le sens esthétique du terme, pour justement parvenir à une sorte de synthèse comme ça. Donc.
Et comment vous êtes arrivé à faire du coup des affiches si vous vouliez au début être peintre en fait? Qu'est-ce qui vous a amené là?
C'est 68, ça peut-être. La rue. Le fait de préférer la rue aux galeries. Oui, bien sûr, c'est un merveilleux lieu d'exposition, la rue. Parce qu'en plus, ça n'en est pas un. C'est le lieu où on surprend par excellence, quoi. C'est surprenant, la rue. Parce qu'on peut toucher tout le monde, le plus grand nombre possible de gens. Les gens qui s'y attendent pas, en plus, il y a un effet de surprise. Et puis, ça fait vivre la rue. Souvent, quand on parle des arts de la rue, on oublie complètement l'affiche. Remarqué ça, alors que c'était plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que des images commerciales, mais c'était un grand art de la rue. L'affiche était même par excellence l'art de la rue.
Et du coup, quand vous avez commencé à faire des affiches, donc en 73-74, dans ces années-là, ça a été des affiches tout de suite de commandes politiques?
Pas tout de suite. Au départ, j'ai fait des affiches pour des petits théâtres Bouffetard, et puis ensuite, ça a été très vite des affiches politiques, ouais, par l'intermédiaire du PS, quoi. avec lequel, comme j'habitais le 5e arrondissement, je suis rentré en contact assez rapidement avec les étudiants du PS qui étaient rue d'Ulme. Là. Ils savaient que j'étais graphiste, et puis ils sont venus me voir, quand on m'a dit, oh, je vais faire une affiche, L'affiche en un demi, puis on a été collé dans tout le 5e arrondissement. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé dans le cadre de l'Union de la Gauche. Parce que moi, je ne suis pas partisan. C'est-à-dire que je suis de gauche, je pense que tout le monde le sait, mais je ne suis pas partisan. Je n'ai pas l'esprit de chapelle. Je n'ai pas l'esprit de chapelle. Je veux dire l'esprit qui consiste à dénigrer un tel ou un tel. Je n'ai pas trop cet esprit-là. Je me suis rendu. En plus, comme j'ai une certaine distance par rapport à ça, c'est ce que je disais l'autre jour à des militants du PCF qui étaient là. Je leur disais, finalement, je me sens plus utile à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que j'ai plus de distance. J'ai plus de distance. Donc je peux dire des choses. Je pense que parce que c'est quand même dingue la propagande. C'est-à-dire, à un moment donné, on tombe dans la propagande si on est un partisan. Non ? Là, c'est-à-dire que les autres sont ceci, les autres sont cela, les autres sont des menteurs, et ainsi de suite, ils racontent des histoires et tout ça. On va, quoi. À un moment donné, les trois quarts de ces choses-là ne sont pas vraies. Alors, qu'est-ce qu'on en a dit des bêtises ?
On voit que ces graphistes aussi renouvellent un peu l'image de ces partis, et notamment c'est assez flagrant avec le Parti communiste qui, dans ces années 70, dépoussière un peu aussi sa communication, enfin justement commence à moins parler de propagande et plus de communication. Et donc Grapus ou Thierry Sarfis et Christian Simon sont des acteurs de ce changement d'image en fait. Hein. Alors ça, c'est... Bon, on a voulu regarder un peu aussi, justement, des histoires de commandes qui ne se sont pas passées forcément comme sur des roulettes. Et ces deux affiches, donc ce sont des affiches signées Grapus, qui ont été faites pour le Mouvement pour la Paix, donc très proche du PC, en 83. On est au moment de la crise des euromissiles, donc du risque de guerre nucléaire un peu exacerbée, et donc d'une marche de 22 octobre 83 contre ce risque nucléaire. Donc le Mouvement pour la Paix passe commande à Grapus d'une affiche, et la première proposition que fait Grapus montre la Terre prise au milieu de deux armadas, hein, donc très, très agressive, sur un fond de Paris dans la brume, enfin, un peu, on a un fond un peu apocalyptique en fait. Et donc cette affiche n'a pas été acceptée telle quelle, en tout cas a été jugée par son commanditaire extrêmement anxiogène, trop violente et tout ça. Et du coup, la réponse qu'a fait Grapus, si c'est trop anxiogène, ils ont proposé une explosion de fleurs, de fruits, donc qui sont des photos découpées.
Très mal découpées, oui.
Voilà, volontairement mal découpées. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les deux affiches ont été éditées et que les deux ont été diffusées.
Ah, les deux ont été diffusées,
oui,
d'accord.
Tout à fait. Donc, il n'y a pas eu un refus vraiment de la première. Elle existe, hein, la première. Mais elle est complétée par la seconde. Adouci par la seconde, si on peut dire. Mais il y a eu d'autres exemples de commandes qui n'ont pas eu une issue aussi heureuse. Hein. C'est par exemple le cas de ces deux affiches d'Alain Le Carnec. Donc on est justement dans une campagne de soutien à Solidarność au début des années 80. Et le PSU de Bretagne commande à Alain Le Carnec une affiche. Et la première proposition de Le Carnec, c'est Staline qui a pris un cocard dans l'œil. Et c'est pareil, le commanditaire a été un peu effrayé, enfin n'a pas accepté ce projet d'affiche, et Alain Le Carnec a dû en faire une deuxième proposition, et il a donc proposé non plus Staline mais Lénine, qui a la Pravda dans la poche, le badge Solidarność sur le revers de son veston, et qui surtout a une petite larme qui lui échappe de l'œil. Voilà, donc ça c'est l'affiche, c'est celle qui a été vraiment éditée. La première proposition est restée à l'état d'ébauche. Et voilà, donc c'est sûr que le sens politique n'est pas tout à fait le même. Le troisième exemple de commande refusée, c'est un projet de Claude Baillargeon qui a été fait en 92 pour la ville de Nantes, l'association Les Anneaux de la Mémoire, qui voulait proposer donc une exposition au moment où on célébrait le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Et donc Nantes voulait aussi revenir sur son passé de ville du commerce triangulaire, donc faire quelque chose sur la rencontre Europe-Amérique-Afrique. Et donc Claude Baillargeon a proposé un photomontage qui montre un arbre avec une chaîne qui se prend en fait dans l'écorce, hein, qui est tellement ancienne qu'elle ne fait qu'un avec le tronc en fait, et sur fond d'océan. Et donc ce projet a été refusé parce que jugé trop explicitement référent à l'esclavage. Voilà.
Et dans la troisième partie de l'exposition, c'est vrai qu'on voit aussi des nouvelles causes apparaître, le chômage, le droit au logement.
Oui, donc les partis politiques, même si petit à petit ils font moins appel à ces graphistes-là pour leur campagne, continuent de faire appel à eux. Alors ce n'est pas forcément les partis au sens instance nationale, hein, ça peut être les fédérations locales, ça peut être les villes, beaucoup, à faire appel à eux pour des campagnes plus de fond. Et effectivement, on voit apparaître les grands thèmes sociaux, hein, de mobilisation de l'époque, donc le droit au logement, qui est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les années 60 et qui reste une préoccupation très importante, avec les mouvements de squatteurs aux Pays-Bas, par exemple, aussi. Et puis, le chômage, hein, qui apparaît aussi dès la fin des années 70. Et on a notamment deux affiches de Claude Baillargeon pour la ville de Bagnolet, l'une sur le problème de logement pour les jeunes, hein, « J'habite encore chez mes parents », qui montre une jeune fille dans un landau, enfin encore réduite à habiter chez ses parents. Et puis la deuxième qui s'intitule « Le chômage me vide » et qui donc est un photomontage qui prend ce slogan à la lettre, puisqu'on a une robe de chambre, enfin, la silhouette d'un homme, les bras croisés dans sa robe de chambre, mais dont le visage a complètement disparu. Et puis donc effectivement, on voit apparaître aussi des luttes un peu nouvelles pour certains segments de la population, donc les luttes féministes, les droits des femmes, et puis bon, les droits des homosexuels aussi font leur apparition au tournant des années 80, et aussi les luttes locales. On a une affiche d'Alain Le Carnec qui s'intitule « Décidons chez nous », qui montre Bécassine avec un point levé. Et donc là, on est plus sur les revendications, c'est avant les lois de décentralisation, hein, donc d'avoir pour les régions le droit de décider aussi de ce qui se fait sur le territoire.
C'est vrai que la Bretagne est très présente à cause du péril nucléaire, en fait, il y a une affiche sur Plogoff aussi.
Oui, c'est aussi parce que ce sont des affiches d'Alain Le Carnec, et qu'Alain Le Carnec, on avait beaucoup de ses productions, et c'est quelqu'un qui travaille à Quimper, et dont les affiches ont été essentiellement commanditées soit des partis politiques, enfin les fédérations du PSU, du PC, du PS local, hein, dans le Finistère, soit par des institutions ou des associations aussi sur place. Mais celle de Plogoff est intéressante aussi parce qu'elle montre aussi une autre transition. On est en 80. C'est une affiche donc, qui s'appelle Visiter Plogoff, qui montre la pointe du Raz et puis le projet de centrale barré. Et dans un coin, il y a un tampon 1980, année du patrimoine. Donc, c'est une affiche du Parti socialiste du Finistère. Au moment donc, où le projet de centrale nucléaire à Plogoff, donc à la pointe du Raz, n'était pas encore abandonné, puisque c'est Mitterrand qui va l'abandonner en 81.
Et ils ont tenu leur promesse, du coup, là-dessus.
Oui. Et donc, on a effectivement... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première année du patrimoine. Donc, l'année du patrimoine, ça fait référence au patrimoine culturel, enfin, à la nécessité de le préserver, etc. Donc, il y a une certaine sacralisation de la culture, enfin, qui est derrière. Et donc, le Carnec en joue pour parler de patrimoine naturel aussi, hein. Donc, on est aussi sur des considérations qui apparaissent, hein, le fait d'avoir un patrimoine culturel, un patrimoine naturel, c'est pas des choses qui sont forcément très anciennes non plus. Dernier élément intéressant aussi, on a mis en exergue des affiches de Klaus Steck, qui est un graphiste allemand, et qui sont intéressantes aussi parce qu'elles montrent que la commande n'est pas la seule manière de produire des affiches. Klaus Steck, il est éditeur, et donc en fait il produit ses propres affiches et il les édite, il s'auto-édite. Mm-hmm. Et donc du coup, ça lui permet, alors il est proche du SPD, mais il n'est pas membre du SPD, mais du coup c'est vrai que ses affiches, il y en a certaines qui font référence à la politique allemande et qui sont très, très féroces en fait contre la CDU, mais il y en a aussi comme celles qu'on a mises qui sont plus internationales, enfin qui sont moins liées à un contexte très politique. Donc il y en a une où on voit une relecture du Déjeuner sur l'herbe avec qui est plus une dénonciation de la société de consommation, et puis une autre qui s'intitule For Why the Streets Vote Conservative et qui fait plus référence sans doute à l'Angleterre avec une Rolls-Royce dans une rue très étroite. Et donc voilà, ça montre aussi un autre moyen de faire diffuser des affiches, que ben, voilà, de les produire soi-même, de les éditer soi-même, et puis après ben, d'aller démarcher des commanditaires potentiels, hein, qui peuvent parfois des parties, qui peuvent parfois acheter la production, ou parfois de les coller soi-même, et surtout, hein, le principal mode de diffusion, c'est de les vendre. Donc là, on passe aussi un peu d'un mode de diffusion de l'affiche dans l'espace public à plutôt un mode de diffusion de l'affiche dans l'espace privé, hein, ce qui est quand même une tendance aussi de l'exposition que de voir ça, la réduction un petit peu de ces styles d'affiches politiques et culturelles dans la rue, et puis bah, leur diffusion dans des espaces plus militants, associatifs, voire dans les intérieurs aussi.
Pour dire la vérité, j'ai quitté le PS en 80, à l'heure où tout le monde prenait sa carte.
Claude Baillargeon.
On ne peut pas m'accuser d'opportunisme. Hein. Mais non, simplement, je n'ai pas quitté le PS, parce que je veux dire, c'est eux qui m'ont quitté aussi. Ils ont tout simplement fait appel à des grosses boîtes de communication dès lors qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont complètement changé de stratégie de communication. Bon. Et bon, moi, je pensais naïvement que quand la gauche serait au pouvoir, il y aurait des affiches extraordinaires partout, faites par de bons artisans graphistes. Ça a été loin d'être le cas. Hein. Ça a été loin d'être le cas. Bon, vous savez, on ne rompt pas avec le libéralisme comme ça, si facilement que ça. Je m'arrange pour travailler avec des gens qui, de toute façon, bon, ont des bons sujets de commande. Je dis, bon, quand il s'agit de faire une affiche comme celle que je viens de faire pour le PCF contre l'austérité, bon, moi, je veux dire que j'accepte de faire ça. Hein? C'est-à-dire que ce qui quand même... Bon, ouais. J'aime bien travailler dans la contre-culture, contre les idées reçues, par goût... voilà. Et tout sujet qui oui, mais les gens qui me commandent en général sont des gens qui me commandent, qui me connaissent. Hein? Donc ils vont pas me commander n'importe quoi non plus. Ils vont se dire, ah bah tiens, ça c'est bien, bah, l'argent va pouvoir faire ça. Il sait faire ça. Voilà. Mais il est certain que une grosse agence de publicité ne viendra jamais me chercher pour faire pour tout simplement parce qu'ils savent que je vais refuser. Et puis ils ne vont pas vouloir travailler avec moi. Et puis moi pas avec eux, parce que bon, je veux garder ma liberté. Alors déjà que c'est pas facile de garder sa liberté avec les gens avec qui j'ai travaillé, alors avec une agence de com, ça sera encore le comble. Non, c'est par souci de garder ma liberté. Sans liberté, il n'y a pas de création. Alors, si on commence à travailler avec des gens qui ne nous laissent pas libres, on peut pas, il n'y a pas de création, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, j'aime bien travailler avec les communistes. Chaque fois que je travaille avec eux, ça s'est bien passé. Alors on dit toujours, ah, les communistes, ils censurent, et ceci, c'est complètement faux. Les staliniens ne sont pas là où on croit, ils sont ailleurs. C'est vrai ce que je dis, hein. Toujours été libre et payé normalement. Tarif syndical. Ce qui est bien payé. Tarif syndical, c'est bien payé. Ben, c'est le prix. Toujours, jamais lésiné là-dessus. Et puis respect du travail aussi. Alors, bien sûr, quelquefois on peut parlementer sur tel ou tel détail. Mais respect du travail. D'un coup, c'est pas le bordel, quoi. Non, mais moi, j'aime bien le bordel, mais il y a des limites. Je veux dire, moi, j'ai vu des fois, bon, c'était Pierre, Paul, Jacques, etc., qui venaient, quand j'amenais une image, j'amenais leur opinion, leur avis. Pierre n'étant pas d'accord avec Jacques, Jacques n'étant pas d'accord avec Pierre, et ainsi de suite, c'est un bazar fou. Alors, bon, c'est fatigant, hein, d'envoyer comme ça, dans ces conditions-là. Donc, moi, avec les communistes, c'est très clair. C'est des travailleurs, quoi. Ils savent ce que c'est que le travail, respectent le travail.
C'est quoi un bon commanditaire? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou c'est quelqu'un qui laisse la liberté au graphiste? Qu'est-ce qui...
Oui. Ben, c'est quelqu'un qui connaît déjà bien, qui a une certaine culture visuelle, une culture du graphisme, etc., et qui sait que pour tel problème, il vaut mieux appeler un tel qu'un tel. Et une fois qu'ils ont fait le choix du graphiste, ils le laissent libre de travailler. Leur choix à eux réside dans le choix du graphiste, une fois qu'on l'a choisi. On ne va pas demander au musicien de revoir toute sa partition. Hein. Ça n'a aucun sens. Ou alors on en appelle un autre. On n'est pas content de sa musique. Mais... parce que c'est souvent des choses qui se pratiquent, c'est vrai, c'est dans notre société sous-développée visuellement. En France, on est quand même assez sous-développé visuellement. C'est un pays très littéraire, très intéressant, très bien. J'adore la France, mais d'un point de vue visuel, franchement, il y aurait des efforts à faire au niveau de l'éducation nationale pour apprendre aux enfants à lire les images. Ça, c'est certain. Parce que si on n'a pas fait les arts déco, les beaux-arts ou bien une école de sémiologie, qui sait lire les images dans notre pays ? Très peu de gens. Très peu de gens. Non, ça nécessite un engagement obligatoirement de la création. Obligatoirement, mais que ce soit dans le domaine de la musique, dans tout de la peinture, etc. Parce que c'est vrai qu'il faut pas, on peut pas, comment dire, c'est ça ou rien, quoi. Je veux dire, si on change la virgule dans un poème d'Apollinaire, c'est plus le même poème. Hein. Donc il faut être très intransigeant aussi. Et ça, c'est toute une affaire compliquée. Parce que intransigeant à l'intérieur d'un travail de commande, ça ne va pas de soi. Il faut déjà commencer par être intransigeant avec soi-même, aller jusqu'au bout. Si on peut aller jusqu'au bout de soi-même, on peut arriver jusqu'au bout des autres. Mais bon, si on n'arrive pas jusqu'au bout de soi-même, c'est hors de question. Parce que quand on est sûr qu'on est arrivé à un bon résultat à force de travail, parce que c'est du travail, il ne se fait pas comme ça. Alors on peut l'imposer. Mais si on n'est pas sûr d'avoir fait un bon travail, comment est-ce que vous voulez imposer quelque chose ? Donc, on n'est jamais sûr, mais quand même. Bon, c'est difficile. Bon, un jour, Sislevitch m'a dit, parce que je voulais savoir Sislevitch, parce que c'était quand même une influence incroyable. Alors, il me dit, si j'ai fait une douzaine de bonnes images dans ma vie, c'est pas fou. Bon, c'était peut-être un peu modeste. Mais vous savez, bon, si j'en ai fait 5-6, moi, c'était à peu près tout. Je veux dire... peut-être que je pourrais en faire d'autres, hein. Surtout que je progresse. Mais bon, c'est pas évident. Pas évident. Bon, le bon sujet, le bon moment, le bon endroit. Puis il y a tellement d'aléatoires dans tout ça aussi. Hein.
Là, on est dans la dernière partie de l'exposition sur les affiches culturelles.
Oui, donc c'est pour montrer un petit peu certains grands commanditaires d'affiches que sont les théâtres ou certaines grandes institutions culturelles comme le Centre Georges Pompidou hein, qui ouvre ses portes en 77 et qui, dans ses premières années, va être un soutien très fort pour le graphisme indépendant. Alors le théâtre, c'est aussi historiquement un très grand commanditaire d'affiches, hein, bien avant notre période d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les années 70, par exemple, c'est l'époque de la décentralisation théâtrale. Donc on voit apparaître les centres dramatiques nationaux. Et donc cette volonté de diffuser le théâtre un peu sur tout l'ensemble du territoire va en complément se doter d'une politique de communication qui est assez offensive et assez initiale. Pleine d'audace aussi. Donc on va faire appel à ces graphistes-là, hein, ces centres dramatiques nationaux, comme le Théâtre de la Salamandre, dont on a un exemple ici, font appel à Grappus ou à bien d'autres de ces graphistes-là. Et puis c'est aussi le moment où les villes prennent conscience que la culture, enfin qu'avoir une politique culturelle, bah, c'est aussi un levier de politique tout court. Et donc là aussi, parfois, elles vont être à l'origine d'affiches bah, comme celle de Saint-Étienne, là, l'abonnement pour la Maison de la Culture de Saint-Étienne. Donc d'affiches qui bah, peuvent surprendre et être un peu bah, être assez innovantes. Hein,
oui, alors c'est vrai, celle-là, on a, en fait, on a l'impression, on voit l'abonnement, on a vraiment l'impression que c'est une publicité pour une pièce, en fait, avant ouais. qu'il s'agisse d'un jeu de mots.
Voilà, pour la campagne d'abonnement, oui. Et c'est vrai que c'est une affiche qui est très, très sobre, formellement, puisqu'il y a juste ces trois mots, « l'abonnement », et qui, au début, a relativement surpris le commanditaire, enfin, qui imaginait mal d'avoir ça en 4x3 sur des murs ou sur les colonnes de diffusion des affiches. Et puis, finalement, elle a été acceptée. Voilà, donc c'est pour montrer aussi que ben, cette audace un peu graphique, elle peut passer par une grande sobriété, comme par des formes beaucoup plus pleines de profusion. Donc en fait, bah, oui, cette période des années 70-80, elle est intéressante à la fois parce qu'elle permet de voir que bah, ce qu'on observe un peu en 68, cette explosion un peu de l'affiche, c'est pas, ça ne s'éteint pas tout de suite, hein, ça perdure, et qu'il y a un contexte aussi avec le contexte de, bah, d'union de la gauche en France, par exemple, enfin, de conquête du pouvoir. Il y a une conjonction qui fait que ces graphistes-là trouvent des commanditaires qui leur laissent aussi la marge d'expression. Mais ce qu'on voit, c'est que bah, avec les années 80, petit à petit, les choses changent. Hein, à la fois, la commande politique se réduit, la place de l'affiche dans l'espace public se réduit, c'est-à-dire que de plus en plus, les affiches publicitaires ou les affiches d'agences de com envahissent l'espace et que ces affiches de graphistes indépendants, bah, elles ont un peu la part congrue. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est la révolution informatique, hein, à partir du milieu des années 80, qui fait que ça change aussi la donne, parce que y a plus besoin forcément d'être un graphiste professionnel pour produire une affiche. Donc ça change aussi un peu les choses. On voit apparaître aussi, bien sûr, dans les années 90, Internet, et ça change aussi la façon de diffuser, même les canaux militants, si vous voulez, évoluent aussi.
Oui, c'est l'affiche en tant que telle, en fait, qui est même moins...
Donc l'affiche en tant que telle, elle, c'est un support qui est moins le roi de la rue, si on peut que dire que ça l'était auparavant. Les espaces d'affichage, même des affiches culturelles, sont beaucoup plus... cadré, hein, c'est les colonnes de co, par exemple, c'est ce genre de choses, alors que dans les années 70, on avait encore des places réservées à l'affichage sauvage, hein, ou des tirages. Les institutions prévoyaient des tirages pour l'affichage sauvage. Bon, voilà, on n'est plus dans cette mouvance-là. Donc c'est aussi un changement un peu d'époque qu'on observe. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'affiches militantes engagées aujourd'hui. Simplement, elles sont souvent... le Parti communiste, par exemple, continue à en commander, hein, en éditer. Mais c'est vrai que leur visibilité est réduite. Et puis, parfois, elles sont plus visibles dans des espaces un peu communautaires ou associatifs. Enfin, on en voit beaucoup à la fête de l'UMA, par exemple, mais on les voit pas forcément autant dans la rue. Hein, que, voilà. Et puis bon, il y a deux jeunes graphistes qui continuent d'y croire et continuent à produire des affiches, mais à ce moment-là, ils sont souvent dans un processus d'auto-édition au début, et puis un peu ce que j'expliquais sur Klaustek, c'est-à-dire qu'ils essayent après de trouver à se les faire acheter, en fait, hein, par les partis ou par les associations, pour permettre aussi d'en vivre et de les diffuser.
Et donc, l'exposition intellectuelle graphique s'arrête
Elle est visible donc à l'Hôtel National des Invalides jusqu'au 29 mai et ouverte ben, tous les jours de 10h à 18h, sauf ben, elle sera fermée le 15 mai.
Il y a déjà des expositions prochaines prévues ?
Alors la BDIC, oui, aura une exposition en 2017 sur la Révolution russe à l'occasion du centenaire. Donc fin 2017, on se retrouvera ici.
Ben, merci beaucoup, Cécile Tardy.
Ben, je vous en prie.